Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Namaskafé.
Namaskafé.
Oh.
Bonjour tout le monde. Namaskafé. Ici un peu de crime dans ton café. Nous sommes... Non, je suis votre animatrice... J'ai de la misère en matin. Je suis votre animatrice, Catherine. Et comme toujours, je suis avec la merveilleuse, la splendide toupetteuse. J'essaie de trouver un adjectif qui allait avec toupette. Audrey. Bonjour Audrey, comment ça va?
Ça va, à ma job, on m'appelle le dictionnaire à toupette.
Pour vrai?
Ben oui.
Ben c'est bon ça.
Mais je suis réviseur.
Ah oh, c'est incroyable. C'est un bûcher à la toupée à tout.
Ben oui, je suis le dictionnaire à toupée à toi.
C'est splendide.
J'ai un petit Robert puis il y a moi.
Voilà. C'est ça.
Je pensais que j'allais faire une joke mais
il y a la rousse, le dictionnaire puis le toupette.
La rousse à toupette.
Ah c'est merveilleux. Alors aujourd'hui on va parler de choses tristes.
Oui.
Oui. Et on a juste vous annoncer que nous avons pris en considération
vos commentaires. On vous écoute.
Vote. Mais je voulais faire une blague des appendices. Mais là, on peut pas dire ma opinion, mais c'est ta opinion, cher auditeur, chère auditrice. Non, mais on fera plus de cas splittés en deux petits cas. Parce qu'il y a des gens qui sont impatients.
C'est correct, on
comprend
ça. Et
veulent tout le cas d'une shot. Alors, on va continuer avec la formule qui était...
De longs épisodes.
Tried and proved. Oui. Ça a été essayé et ça a fonctionné. Et voilà. Je manque de mots ce matin. Oh, ça va pas bien. Mais donc, on va continuer avec nos épisodes aux deux semaines. Mais là, on a un cas particulier parce que là, il est super long. Fait que là, on va oui. faire un two-parter, mais c'est un vrai two-parter.
Ouais, là, c'est un vrai de vrai two-parter.
Ouais.
Puis, dans le fond, comme j'expliquais à Catherine, pour moi, c'est important que ces deux cas-là soient séparés. Puis, je pense que vous allez comprendre assez rapidement pourquoi. Parce que la première partie a souvent été traitée comme une parenthèse dans le deuxième. Ce qui est une chose absolument pas juste pour moi, puisqu'on parle de deux femmes qui ont perdu la vie. Mm-hmm. Et pour moi, c'est important que chacune ait son moment pour qu'on se rappelle d'elles et qu'on leur redonne leur voix. Donc cet épisode-là va être en deux parties, mais croyez-moi, c'est parce que ça vaut la peine qu'il soit en deux parties pour être sûr que chaque femme ait son moment pour qu'on se rappelle d'elle et qu'on discute de qu'est-ce qui leur est arrivé de manière précise.
Faites-nous confiance, là.
Faites-nous confiance. On vous a écouté. C'est pas nous qui font les têtes de cochon.
Non.
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 C'est correct. Alors, avant cela, nous allons parler de café. J'ai une enveloppe de café que je garde chez moi depuis toujours. Et nous sommes dans un processus de préparer un déménagement. À peu près à toutes les semaines, mon chum me demande, « Mais là, peux-tu l'acheter, l'enveloppe de café? » Je dis, « Non, on n'en a pas parlé encore. » Alors, aujourd'hui, je vais en parler. Pour ensuite jeter l'enveloppe de café.
Et voilà.
Que j'ai fini il y a comme deux mois. Donc, c'était un café
on
pista.
En a beaucoup. Vous êtes généreux et généreuse.
Oui, ben c'est ça. On avait reçu trois cafés pista par la poste d'une auditrice.
De Sony.
Encore Sony.
Ben Sony nous avait envoyé un pista puis deux autres.
Oh, Sony!
Sony Baker!
Oh, c'est ben oui. Moi, j'ai une mémoire de hamster. De poisson rouge, mais les deux.
Comme
un petit hamster stressé. Et donc, nous avons un dernier café pista à vous présenter avant que je pitche l'enveloppe au vidange parce que c'est pas parce qu'il était pas bon, c'est parce qu'il est fini.
Ouais.
Que c'est on collectionne pas les enveloppes de café vide chez nous. Et
ça
donc,
c'est
un
murale.
Pista qui a été torréfié le 4 octobre. Fait qu'on l'a reçu cet automne.
Ouais.
Ben, c'est pour ça que ça fait longtemps qu'il est fini.
Ouais.
Bon, ben voilà. Ça, je comprends pourquoi mon chum voulait l'acheter. Fait que c'est le Bukisa lavé qui vient de l'Éthiopie. De la région du Chakiso et qui est de variété... Oh boy, what is that? Je n'ai jamais vu ça, donc je vais vous lire ça. C'est de variété, on dirait que c'est 90210. 7410, 74112. J'ai jamais entendu parler des variétés de café qui étaient des chiffres.
Il y a quelqu'un qui est comme, c'est mon numéro de téléphone.
Qu'est-ce que c'est ça?
Quoi?
C'est un café qui m'a particulièrement plu parce qu'il était très propre. Et j'aime ça, les choses propres.
Oui.
Et c'était donc un café de variété 74110, 74112, de procédé lavé, avec des arômes de thé noir, de lime et de miel.
Oh!
Et moi, j'aime beaucoup le thé noir. Je suis une little British lady.
Woman.
Oh yes, in my garden, comme dans Bob's Burgers. Et je bois du thé noir comme avec du lait puis du sucre comme...
Oh!
Professeur Umbridge. Oh oui, c'est ça. J'allais dire comme Professeur Umbridge dans Harry Potter, mais ça, c'est pas une super belle comparaison. Mettons non. Dans Bridgerton.
Bridgerton.
Où je serais un très bon personnage dans oui. Bridgerton, sans doute. Et donc, je l'ai beaucoup aimé à cause des notes de thé noir. Ça donne une espèce de d'acidité qui est particulière, puis qui n'est pas exactement celle des notes de fruits. Mmh. Là, c'est l'acidité des agrumes, les notes de lime, et aussi l'acidité du thé, qui est différente de l'acidité du café. C'est vraiment incroyable. C'est un beau hodgepodge de sensations dans la bouche. Et moi, je l'ai bu en espresso parce que maintenant, c'est mon lore de boire des espressos tout le temps. Je ne suis pas capable d'être bothered. Non, c'est pas vrai. Je bois du cold brew sans arrêt aussi.
C'est vrai.
Parce que je suis pas capable d'être bothered d'attendre 4 minutes que ça infuse dans ma presse française. Il faut que j'aille...
C'est trop long!
J'ai ma jarre de café infusé à froid qui est prête
tout
de suite quand je le veux. Et sinon, ben, j'ai mon espresso qui coule en 15 secondes dans ma tasse. Fait que c'est
prêt, là.
Tout un processus.
Schlick-schlack.
Donc, je l'ai bu, celui-là, en espresso. C'était avant que je reçoive ma belle jarre de café. De coffee brew. Et donc, c'est ça, c'est le café que je voulais vous présenter aujourd'hui. Un café qui était disponible chez Pista cet automne. On lui souhaite d'être encore disponible parce qu'il était très bon. C'est le Boukissa lavé de l'Éthiopie. Merci, Sonny, de nous avoir possiblement envoyé ce café.
Merci.
Merci.
Avec tes beaux cheveux.
On vous salue. Oui. Bon, maintenant, on va être triste?
Oui.
OK.
L'ordi fonctionne toujours.
Oui. Il a l'air de marcher encore.
Oui, désolée, c'est parce que Catherine et moi, on enregistrait sur un ordinateur que mon chum avait acheté quand il était au cégep. Notre dernière séance d'enregistrement, il nous a un petit peu, comme on dit en bon québécois, fait chier.
Ah oui, j'allais dire comme on dit en bon québécois, chier dans les mains. Mais
ah
c'est,
ben
c'est,
oui, exactement,
c'est
aussi, oui. N'importe quelle expression. S'applique ici. Alors, on s'est acheté un nouvel ordinateur et on est quand même stressé parce qu'on est des personnes stressées, mais il a l'air de tenir la run. Fait que merci, Amazon. J'aurais pas dû dire ça.
Non, effectivement. Mais je veux dire, c'est pratique.
C'est pratique parce qu'il est arrivé en 24 heures.
Oui, puis c'est pratique pour avoir des boîtes, pour faire des boîtes pour déménager comme celle-là que tu peux construire. Voilà. C'était une boîte dans laquelle il y avait une boîte à couche.
Ah! Oh.
C'est une boîte-ception.
Moi, j'allais dire pour que tes chats se fassent des maisons dedans, mais aussi pour déménager.
Ben aussi, mais celle-là, c'était pour des couches.
Ah, voilà. Donc,
oui,
mon cas pour aujourd'hui. Je vous avertis, ça va être terrible. Et pour la personne qui nous a laissé un très mauvais review parce qu'elle trouve qu'on pleure trop, n'écoute pas cet épisode!
On l'a salué.
Tu ne vas pas aimer ça!
Ouais, non.
Tu vas pas aimer ça, n'écoute pas cet épisode. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du féminicide de Chantal Deschênes. Et la raison pour laquelle je veux en parler en deux parties, c'est parce que l'homme qui lui a enlevé la vie est un récidiviste. Alors, la deuxième partie, c'est un cas dont on a beaucoup entendu parler récemment, cette partie-ci moins. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça important de séparer mon cas en deux, parce que je trouve que ce cas-là a été trop oublié.
Mm-hmm.
Je pense que c'est parce que c'est de la violence conjugale et qu'on a tendance à trouver que la violence conjugale n'est pas assez spectaculaire à notre goût pour en parler plus. Je sais pas si c'est...
Mon Dieu, mais on est donc bien terrible dans cette phrase! D'accord?
Ça s'est passé au début des années 2000. J'ai rushé pour trouver de l'information. Alors, je n'ai pas beaucoup de sources aujourd'hui. Mmh. J'ai un épisode de Un tueur si proche sur Canal D.
Yay!
Et des articles qui ont été publiés dans Le Soleil. Mes trigger warnings sont féminicide, violence conjugale, misogynie. Et naturellement, avant de commencer, j'aimerais vous donner des ressources si vous ou une personne dans votre entourage en aurait de besoin. Alors, il y a SOS Violence Conjugale qui sont disponibles 24 heures au 1-800-363-9010. Ils sont aussi disponibles en ligne si vous aimeriez clavarder ou juste avoir de l'information au sosviolenceconjugale.ca. si vous avez besoin de trouver une maison de femmes, c'est le maison-femmes.qc.ca, c'est au pluriel. Et le site a un avertissement en haut de ne pas consulter ce site web si la personne dont vous cherchez à vous éloigner a accès à votre téléphone, votre ordinateur ou votre tablette. Soyez prudent, faites ce que vous avez de besoin, sachez qu'on vous aime. Le mode incognito n'est pas recommandé pour faire ça.
Pourquoi?
Il y a quand même... S'il y a un spyware dans ton téléphone, la personne peut quand même voir.
C'est vrai.
Alors, on recommande d'utiliser...
Je parle en tant que personne qui n'a probablement pas de spyware dans son téléphone. Je n'ai pas consciente de ça. Désolée, toutes mes excuses.
Donc, si vous avez accès à l'ordinateur d'une amie, votre ordinateur de travail, utilisez plutôt ces ressources-là. Et n'hésitez pas à faire appel à ces ressources.
Oui, je vais les mettre dans la description de l'épisode, si tu permets.
Of course.
Ah, bien sûr. Comme ça, vous n'avez même pas besoin de taper des lettres sur un clavier. Oui. Vous pouvez juste cliquer sur le lien.
Voilà, soyez prudent, prudente.
Oui.
Sachez que vous méritez tous et toutes de l'aide et de vivre en sécurité. Alors, je vous invite à écouter l'épisode et de prendre les précautions dont vous avez besoin, parce que malheureusement, ça va être un épisode de pas super joyeux, drôle, à la Love Aganza.
Je voudrais faire une petite parenthèse avant que tu commences, qui n'a pas rapport pantoute.
Oui.
Juste pour faire une petite blague.
Oui. Il n'y en aura pas beaucoup.
Non, fait qu'il faut que je le fasse. On est dans le processus de mettre nos épisodes sur YouTube, puis il y a quelqu'un qui a commenté sur notre épisode sur l'incendie de la cathédrale Notre-Dame.
Oui.
En 1920-quelque, là. Puis la personne nous a quoté quand on a dit « Si c'est comme un sujet sensible pour vous, faites attention à vous. » Je pense que je parlais soit des incendies ou du Ku Klux Klan, puis la personne était comme « Ha ha ha! » Puis je suis comme « Il y a des gens qui ont peur des incendies pour vrai! »
Oui!
c'est une vraie affaire, puis...
Ou du racisme!
On peut être triggered par le Ku Klux Klan pour vrai, même si je racontais des affaires qui se passaient il y a 100 ans. Fait que c'est pour... On vous salue quand même, chère personne qui avait
qui a trouvé ça drôle.
Tant mieux si vous avez trouvé ça drôle. Nous autres, on va continuer à le faire. Ça va continuer à vous faire rire. Puis on espère que pour d'autres personnes, ça va être important.
OK, ça va être pratique.
Voilà!
En tout cas. Alors, si vous êtes prêts, je vais mettre un peu de crime dans votre café.
Je m'entends avec la farce d'Éric Bruno, fait que je suis correcte.
C'est pas une farce, c'est vraiment une tasse avec Éric Bruno dessus.
Oui, mais on peut pas la vendre, on peut pas la rendre disponible pour vous, chers auditeurs, chères auditrices, parce que...
C'est mon
cadeau.
Il
voudra plus venir à notre podcast.
C'était un cadeau de moi à Catherine. Alors, partie 1, une jeune fille précoce.
Arc. J'aime pas ça.
Ben là!
Ben d'habitude, quand le monde dit ça, c'est quand... avait 11 ans, elle était tellement sexuellement libérée. OK, parfait, excuse-moi. Dans ma tête, c'est vraiment négatif quand le monde utilise ça. C'est jamais bon. Pour les gars, c'est toujours comme « Ah, il a 10 ans, c'est un génie des maths. »
Ouais, ben fait dans ce sens-là.
Ah, OK, excusez, bon.
Je suis féministe, of course, que
oui,
je l'ai écrit pour
ça. Oui, non, je sais, je faisais juste ça. C'est ça. Dans ma tête, il y a un double standard. Puis quand on utilise ça pour les filles, c'est jamais bon.
Ouais, mais moi, je suis pas de même que je pense.
OK, good.
Bon, Cap-Rouge est un quartier de l'arrondissement de Sainte-Foy, dans la ville de Québec. C'est là que Chantal Deschênes naît, le 4 avril 1972. Au dire de ses proches, elle est une enfant modèle qui fait la fierté de ses parents. Elle a à peine 21 ans quand elle décide de quitter le foyer familial pour partir en appartement. Une décision qui étonne Madeleine, sa grand-mère, mais Chantal la rassure. Toutes ses amies le font et elle n'a pas à s'inquiéter. Malheureusement, les choses n'iront pas si bien pour Chantal, qui se retrouve seule pour élever ses deux filles. Chantal enchaîne les petits boulots qui lui procurent un maigre salaire qui permet à elle et ses filles de subsister. Habile de ses mains, elle offre ses services de couturière à des connaissances, mais s'aperçoit assez rapidement que ce n'est pas assez. Éventuellement, Chantal n'a plus le choix, elle applique pour obtenir des chèques de prestations d'aide sociale. En 2000, Chantal a 28 ans. En discutant avec une de ses amies, celle-ci lui propose de se trouver un emploi comme serveuse. Après tout, Chantal est une jolie jeune femme avec beaucoup d'entre-gens. Certainement que le milieu lui conviendrait. Malgré son manque d'expérience, Chantal décide d'appliquer sur un poste de barmaid dans un hôtel de Sainte-Foy. Partie 2. Un ange nommé Serge.
J'aime pas ça jusqu'à date. C'est parti en couille vraiment vite, ton affaire.
Mais là, je m'excuse.
Mais c'est correct, mais ça me rend triste.
Mais là, tu vas sourire un peu.
Ouais. C'est un vrai ange ou c'est un sarcasme?
Non, c'est un vrai ange.
Ah, OK.
Serge Lortie, quand il a entendu la chanson « Passe-moi la poque » des Colocs, il a compris que le regretté Dédé Fortin ne parlait pas vraiment de hockey.
Ah, pour vrai?
En tout cas, c'est ça que j'aime imaginer. En 2000, Serge est gérant du bar d'un hôtel de Sainte-Foy et l'homme qui accordera une entrevue à Chantal Deschênes pour le poste de barmaid. Je le cite. « Chantal se présente à moi après l'heure du dîner. Je vois une demoiselle avec une prestance, une présentation impeccable. » Toutefois, Chantal préfère tout de suite être honnête avec celui qui serait potentiellement son futur employeur. Elle m'a dit « Je suis monoparentale, je suis sur le BS, j'ai aucune expérience. » Elle m'a tellement surpris par son honnêteté que dans ma tête à moi, elle avait déjà l'emploi.
Mm-hmm.
Chantal est surexcitée. Elle appelle sa grand-mère pour lui annoncer qu'elle vient de décrocher un emploi comme barmaid. Si Madeleine est heureuse pour sa petite-fille, elle s'avoue surprise. Chantal ne consomme pas d'alcool et ne connaît pas grand-chose à la boisson.
C'est pas grave, ça.
C'est pas grave, ça s'apprend.
Ça, tu vois, hein, le monde veut juste boire du comment on appelle
ça? La bière.
Non, du
whisky.
Les cannes de choses, trucs là, le Tiger Claw? Non, c'est pas même ça, ça s'appelle.
Des White Claw.
White Claw! J'étais proche. Le monde veut juste des cannes de ça.
Ouais,
des...
en 2000.
Des pop... Non, excuse-moi, j'allais faire la joke tantôt. Le monde veut juste des poppers, puis j'étais comme, je vais trouver une référence plus actuelle, puis j'ai pas été capable.
La Smirnoff Ice.
Oui, c'est ça, de la Smirnoff Ice. La Smirnoff Tornade, OK?
Oh, la Tornade, c'était big!
La Tornade, c'était vraiment big!
Mais les craintes de Madeleine ne sont pas fondées. Chantal prend son nouvel emploi très au sérieux, mm-hmm. et rapidement, sa beauté et son charisme font que le bar se remplit soir après soir.
Oh!
Selon Serge, quand elle arrivait derrière le bar se remplissait. Aux alentours d'elle, c'était juste des hommes. C'était rempli d'hommes. C'était clair, net et précis. Des hommes d'affaires, des livreurs, des hommes qui restaient à l'hôtel. Ils venaient s'asseoir pour parler avec Chantal.
Oh.
C'était leur barmaid.
Oh, c'est bien cute, ça. C'est comme la bar tendresse.
Oui.
Oh! Avec Luc Picard en chaise roulante. Oui.
Puis Lucie Laurier puis Éric Lapointe qui sont deux personnes qu'on essaie d'oublier.
Ben c'est ça, c'est pour ça que je voulais pas y mentionner.
Ouais,
mais okay.
Puis ces deux-là.
Moi je veux juste penser à Luc Picard en chaise roulante.
Ouais. Qui danse tout seul.
Qui danse tout seul en spinant sa chaise.
Oh non, c'est pas le vidéoclip de cette chanson-là. Ça c'est Un beau grand saut. La barre tendresse.
C'est pas la barre tendresse?
Non, la barre tendresse c'est un vidéoclip où est-ce qu'on voit trois filles être des barmaids puis après dans leur intimité.
Ah, OK, excusez, c'est pas ça, là.
Mais c'est correct, là.
C'est des chansons lentes avec la pointe.
Ouais! OK, excusez.
Guylaine Saint-Pierre, une collègue de Chantal, abonde dans le même sens. C'était une collègue aimée de tout le monde. Elle, ses enfants, c'était sa vie. Elle travaillait fort pour eux autres, parce qu'elle était toute seule pour les faire vivre. Elle travaillait intensément. Elle aimait son travail, les clients l'aimaient. Elle était aimée de tout le monde, c'était Chantal. En plus de lui assurer un revenu stable pour s'occuper d'elle et de sa fille, ses filles, pardon, Chantal s'épanouit dans son nouvel emploi. Je cite à nouveau Serge et j'aimerais vraiment qu'on prenne un moment pour bien écouter ses paroles.
Mmh.
Elle m'a dit, je lui donnais sa fierté, qu'elle devenait indépendante. Je lui donnais plus qu'un emploi. L'indépendance pour s'occuper de ses filles, de leur ramener de la nourriture et des habits. Elle m'avait dit qu'elle avait essayé d'appliquer pour des emplois, mais qu'elle ne les a pas eus parce qu'elle n'avait pas d'expérience. Moi, j'ai tout le temps dit, si tu donnes pas de chance à quelqu'un, comment veux-tu qu'il s'améliore? Tu l'essayes, t'as rien à perdre, tout à gagner.
Mm-hmm.
Fait que l'expérience, là, on va se calmer. Si cet emploi qu'elle aimait tant avait rendu sa vie à Chantal, elle était loin de se douter que c'était aussi à cet emploi que 3 ans plus tard, elle allait rencontrer l'homme qui allait la lui enlever. Puis on peut aller prendre une pause.
Oh! Et on est revenu de notre pause.
Et voilà.
On a fait des laps dans la piscine. Tu faisais des mimes de natation.
C'était malade.
On allait se monter une petite chorégraphie de nage synchronisée.
Exactement.
Mais oui, re-bienvenue.
Partie 3. Un nouveau gérant. En 2003, Serge Lortie s'est fait offrir une promotion dans un autre restaurant. S'il est heureux de ce changement de cap, il ressent toutefois un malaise face à celui qu'on engage pour le remplacer. Et là, je sens qu'il y a beaucoup d'ampoules qui vont s'allumer dans des têtes qui nous écoutent.
Ouais.
Cet homme, c'est Eustachio Galaise,
le
Benjamin d'une famille de 5 enfants. Au dire de sa sœur, c'était un jeune homme sportif, drôle, charismatique, un homme qui aimait être entouré de monde. Et là, merci de ne pas nous envoyer des courriels qui disent « Non, c'est Eustachio et c'est Galassé. » C'est comme ça que sa sœur le prononçait dans Un tueur si proche.
Pourquoi ce serait Eustachio? Qu'est-ce que c'est ça?
Je sais pas, mais je l'ai entendu prononcer de plein de façons différentes. Puis ça, c'est sa sœur, puis elle prononçait comme ça. On va y aller avec cette prononciation-là.
Ben, il y a personne qui nous a écrit pour nous dire que ça se prononçait pas Jonathan Bethes. Fait que
c'est ça.
Je pense que le monde sont pas vite pour corriger notre prononciation. Sauf pour les lieux. Comme,
ouais.
comme Master Yash, Rock je me Forest. Suis fait dire en tabarnouche. Puis Rock Forest. Bon.
On l'a appris. Mais Serge, lui, ne voit qu'une belle grosse parade de red flag. Il avait une prestance, il était puissant. Il dégageait beaucoup d'énergie, mais c'était de l'énergie négative, je le sentais. Il essayait de me dire qu'il allait mettre le monde dans sa poche.
Wow.
Je me suis dit « Oh boy, ça sent le problème ».
Under my thumb.
Puis moi, je dis qu'on devrait plus écouter Serge dans la vie.
Oui.
Anciennement directeur de la réception d'un club de golf, Eustachio voit son nouvel emploi comme la première étape devant le mener à accomplir son rêve de longue date, celui de posséder un restaurant.
Ah, OK.
Guylaine, la collègue et amie de Chantal, voit elle aussi d'un mauvais œil l'arrivée du nouveau gérant. Pour montrer qu'il était le patron, il avait besoin de contrôler son monde. Il rentrait puis il disait « Moi, je vais rentrer, je vais contrôler tous mes employés. Ma façon, c'est la bonne. » Il écoutait personne, il faisait des changements. C'était ses idées et c'était une bonne idée parce que c'était son idée à lui.
Ça, c'est le fun, le monde de même.
Ben oui, ça finit jamais que l'entreprise doit fermer parce que tout le monde a sa raison qui est.
Ben non, partout. Puis c'est tellement signe d'une bonne comme santé mentale. Oui. Puis, tu sais, pas d'une fragilité émotionnelle.
Non.
Du tout. T'es pleinement capable d'accepter la rétroaction.
Exactement.
Ah, c'est le fun. Sarcasme.
La première rencontre entre Eustachio et Chantal ne se passe pas très bien. En bonhomme contrôlant, Eustachio n'apprécie pas tous ces hommes qui tournent autour de Chantal et passe des heures au bar dans le seul but d'adresser quelques mots à la jolie barmaid.
C'est un bar!
Les maudits hommes qui dépensent de l'argent pour boire de l'alcool.
Dans mon établissement que je gère!
Comment osez-vous dépenser de l'argent dans mon établissement?
Mais c'est un bar!
Fuck you!
C'est un bar! C'est comme si tu renais les autobus de la STM et t'es comme « Il y a du monde dans les autobus, calvaire! »
Ouais, prenez votre chance, sacrez votre patience!
Marchez, utilisez des pieds, vous avez des pieds! À partir de maintenant, c'est juste le monde en mobilité réduite qui a le droit des autobus.
OK, puis même là, vous êtes déjà sur des roues, fuck off! Ceci était une blague.
C'était un bon hot take. Je me demandais où je m'en allais avec ma joke niaiseuse, mais...
Ceci était une blague.
Tu veux juste si quelqu'un était comme, ben juste installer un moteur sur sa chaise roulante, puis t'as plus besoin de prendre le transport adapté.
Mais il y a des chaises roulantes avec des moteurs.
Ben oui, je sais bien, mais on va dire que t'en as pas. T'imagines-tu si c'était ça l'argument?
Ouais.
On va couper le transport adapté, t'as juste installé un moteur sur ta chaise roulante.
On dira pas trop fort d'un coup qu'un ministre de la CAQ nous écoute.
Non, ça se peut.
Mais bonne idée, ça!
On espère, on touche du bois, que ça va peut-être débarquer bientôt, la CAQ.
Hey.
On va l'avoir, notre pays! Le PQ, il monte des sondages, apparemment!
Ils sont simples!
On dirait qu'on est en 1976, je comprends pas ce qui se passe. C'est vraiment incroyable.
Non, ils sont même pas 5, ils sont 4. Ils sont même pas encore les doigts de la main.
Ouais, René Lévesque était tout seul qu'on connaissait son nom. Okay?
Ouais.
Ouais!
Comme les 4 doigts de la main,
nous, on a peur de rien.
L'avenir du Québec nous appartient.
J'espère que c'est le petit doigt qui manque et non pas le pouce, parce que t'aurais plus de misère avec ta
prévention. Ouais, comme, tu peux rien prendre.
Ouais, c'est ça. T'es comme une poule.
Et là, Serge va tenter de rectifier la situation, mais d'une manière, selon moi, un peu bizarre. Tu me diras ce que t'en penses, Catherine.
La situation étant les hommes qui tournent autour de Chantal?
La situation étant Eustachio qui pète des coches parce que les gens osent dépenser de l'argent dans son établissement.
Ah oui, OK, cool. C'est quoi la solution?
Alors, Serge va expliquer à Eustachio que Chantal, elle est belle. Elle est une Québécoise. Pour comprendre Chantal, tu dois comprendre ce que c'est. Une Québécoise.
Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Et si tu n'es pas prêt à accepter c'est quoi, ces choses de ta barmaid, tu es à la mauvaise place. Et là, je ne comprends pas ce que ça veut dire.
Mais je trouve ça très inspirant, puis je pense qu'on devrait faire des chandails
ouais,
qui disent
moi,
ce que c'est d'être une Québécoise.
Je suis comme ça. C'est juste moi ou dans la conscience populaire, les Québécoises, on est comme les Suédoises de l'Amérique.
Oui.
Je pense qu'à date, il y a juste Letterkenny qui a bien représenté les femmes québécoises, c'est-à-dire ce sont des femmes qui parlent en français.
Ah.
Tout simplement, et ils ont toutes des personnalités très distinctes.
Ouais, c'est pas des femmes lubriques qui n'ont pas de morale?
Non, elles parlent en français et elles sont Magali et Lépine Blondeau.
Ah, oh, nice.
Fait que j'ai juste...
Ah, je nous le souhaite.
Ah, puis là, j'ai écrit... Les Québécoises, on est toutes des barmaides dans l'âme, c'est dans nos gènes.
Ben là, mon Dieu.
Et c'est nos
origines. Vous m'avez jamais vu aller.
C'est nos ancêtres irlandais. Là.
J'ai de la difficulté à faire la vaisselle. Comment pourrais-je faire pour servir des verres?
Mais non, mais...
Les salir, tu sais.
Au pire, les hommes pourraient s'installer autour de ton comptoir puis te regarder faire la vaisselle. T'es une Québécoise. C'est dans tes gènes. Tu fais la vaisselle d'une façon lubrique.
Oh!
Oh!
Oh! Comment nos étés? Il y avait ça dans nos étés!
Oui!
Dans la première saison, du lavage sexy d'assiettes, là, avec des zooms sur des mains pleines de mousse, ça va... Oh! 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 Oui.
Pourtant, Eustachio n'a pas à s'inquiéter parce que malgré tous les hommes qui lui font les yeux doux, Chantal n'avait des yeux doux que pour un seul homme. Eustachio Galaise.
Oh non, wesh, pourquoi?
OK. Partie 4, le nouveau chum de Chantal.
Ah oh non, c'est Eustachio Galaise.
Eh oui.
Ça se prononce Eustachio Galaise.
Ça se prononce Troutpette.
Ah! C'est pas facile l'alphabet. Hein?
Ouais, hein?
Des fois, ça se prononce complètement différemment.
Ça vient d'Italie. Ça se prononce Troutpette. L'attirance de Chantal pour Eustachio est réciproque. I guess qu'il avait fini sa lecture de chevet Les Québécoises pour les nuls. Malgré qu'elle se doute que ses collègues risquent de ne pas approuver sa nouvelle relation, Chantal commence à fréquenter Eustachio, son patron. En décembre 2003, elle franchit même une nouvelle étape et le présente à ses deux filles. La rencontre n'effraie pas Eustachio, lui-même est alors père de 3 enfants, un de 6 ans et des jumeaux de 4 ans qu'il avait eus avec son ex-femme, Joanne. Qui, si je comprends bien, est elle aussi une Québécoise? Le charme s'opère. Eustachio adore les filles de Chantal et celles-ci le lui rendent bien. À chaque visite, le nouveau conjoint de leur mère les couvre de cadeaux et de petites attentions. Chantal est comblée. Elle a un nouveau chum et un père pour ses enfants. Cependant, quand Serge vient visiter son amie sur son ancien lieu de travail, celle-ci hésite à lui révéler l'identité de son nouveau chum. Mais Serge n'est pas dupe et voit aussitôt ce qui se trame. Elle m'a dit « Serge, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Je sais que tu ne seras pas d'accord. » Et je m'en doutais. J'ai décidé de sortir avec Eustachio. J'ai dit « T'es pas sérieuse, non, tu peux pas faire ça. » Je lui ai rappelé que moi, j'avais une ligne que je ne dépassais pas. J'avais des relations avec mes employés, je pouvais avoir une relation privilégiée, mais pas intime. Elle ne m'écoutait pas, elle était en amour.
Excusez, il y a plein de jokes inappropriés qui me viennent en tête.
Une relation privilégiée.
Ouais, juste avec les mains, c'est correct, jamais plus loin.
Moi, j'allais juste dire, je te garde toujours des Smarties rouges.
Ah non, okay, c'est... il y a une limite que je transis jamais, OK? La pénétration!
C'est juste les mains!
Tout le reste est sur la table!
On garde notre linge!
Oui, en dessous du linge, voilà!
Puisqu'elle se doutait que son ami et ancien patron risquait de réagir ainsi, Chantal se garde toutefois de lui avouer qu'à ce moment, Eustachio avait déjà emménagé chez elle. Une chose que la grand-mère de Chantal ne voit également pas d'un bon œil. J'ai eu un mauvais pressentiment en le voyant. Pourtant, je suis une personne joyeuse, j'aime bien les gens, mais celui-là, j'étais pas capable. Voyant que sa petite-fille est heureuse, Madeleine n'ose toutefois pas lui avouer ce qu'elle ressent au sujet d'Eustachio. Pourtant, Madeleine avait bien raison de s'inquiéter. Voyez-vous, la relation de Eustachio avec son ex et la mère de ses enfants, Joanne, avait été tumultueuse. À de nombreuses reprises, la police est appelée à se rendre au domicile de Galaise et de sa conjointe pour les séparer. Toutefois, en raison de ses abus de cocaïne et d'alcool, Eustachio affirme souvent ne pas se rappeler de ce qui s'est passé.
Je pense pas que c'est le même, ça marche.
Moi non plus.
Je pense pas que la cocaïne te fait avoir des blackouts. Si tu bois beaucoup, ça c'est une autre affaire, mais...
Oui, mais la cocaïne...
C'est pas censé te rendre plus réveillé?
Les gens qui prennent de la cocaïne, envoyez-nous des courriels.
Oui.
Ils vont arriver vite.
Oui, c'est ça.
Non! Finalement, pendant un voyage à Ottawa, en 1997, Eustachio est arrêté et envoyé en prison pour 7 jours suite à des accusations de violence conjugale envers Joanne. Malgré tout, Joanne plaide auprès de la police qu'elle ne craint pas Eustachio et que celui-ci est un bon père pour ses enfants, malgré ses nombreuses absences en raison d'un emploi à l'horaire exigeant.
Malgré son problème de cocaïne puis d'alcool?
on va pas juger Joanne.
Mais avec... Non, parce
on que... On sait pas qu'est-ce qu'elle vivait.
Ben non, mais ça s'appelle le syndrome de la femme battue. Je veux dire, c'est comme... C'est... On sait que c'est très difficile de sortir de ça, mais moi, c'est plus la police.
Oui.
Moi, j'ai de la difficulté avec la manière dont la police intervient dans des affaires comme ça, parce que très souvent, c'est comme... Non, ben, sa femme a dit que c'est correct. Ouais. C'est correct.
Mais je sais qu'il y a beaucoup de policiers aussi qui sont frustrés du fait que quand une femme refuse de porter plainte, même si elle a les deux yeux au bar noir puis il y a plein de trous dans le mur, ils peuvent absolument rien faire.
Babine aurait été fâchée de ça dans le district 31. Ouais. Certain.
Lui aussi, il aurait punché un mur.
Ouais. Il était woke de même, lui.
Ouais, le policier woke.
Le policier woke qui punche les murs, mais non, non, ben c'est ça. Je sais que c'est pas leur faute puis il y a rien qu'ils peuvent faire, mais c'est comme...
Mais comme, tu sais, en plus...
Ils peuvent appeler la DPJ, non?
Ah! Je sais pas comment ça fonctionne pour faire des signalements à la DPJ. J'essaie de
donner des idées aux policiers. Oui,
mais comme... Mais tu sais, ça, c'est quelque chose qui me stresse, là, je m'excuse, je fais une parenthèse, mais comme, avec la crise du logement, présentement, j'ai comme énormément de crainte qu'il y a des femmes, présentement, qui restent dans des relations extrêmement dangereuses par crainte de précarité, de perdre leur logement, de pas pouvoir se loger avec leurs enfants.
Mm-hmm.
Donc, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup, mm-hmm, présentement.
Oui, mais ça coûte trop cher pour le gouvernement d'ouvrir plus de foyers pour les femmes.
Oui, comme...
C'est ça qu'ils ont dit, OK?
Tu sais, un foyer pour femmes égale moins d'équipes étrangères de hockey qui viennent chez nous.
Moins d'équipes de la côte ouest dont on se sacre.
Tu sais, comme, hein, tu sais, yo...
Ben, c'est aussi moins de d'ingénieurs qui sont payés pour faire des dessins de à quoi ça pourrait ressembler, un tunnel à 14 000 voies.
C'est ça.
Ça aussi, c'est...
C'est comme...
C'est plate. C'est plate de couper dans tes affaires là-même qui sont vraiment essentielles à la société puis au bien-être de la population du Québec.
Tu sais, on pourrait avoir comme une maudite belle culture d'orignal, là. Puis là, toi, tu veux comme une maison pour femmes battues. C'est-tu que tu gosses?
Je sais. Moi, en fait, ce que je veux, ça s'appelle un filet social. Mais exactement. Ça, c'est pas assez précis.
Mais c'est parce que toi, tout le monde est des snowflakes.
100%.
On est des snowflakes.
Ben, ça tombe bien, il y a eu une tempête hier. Ouais. Fait qu'on est encore vraiment d'actualité.
Maintenant, on est comme...
Yeah!
Legion!
Yeah! On est tellement nombreux!
Joanne va expliquer aux agents que les problèmes de Sacha avec la cocaïne ont empiré après la naissance de leurs jumeaux.
Non, c'est pas bon, ça.
Et qu'elle l'avait convaincue d'aller consulter un psychologue pour l'aider avec ses problèmes de toxicomanie. Eustachio n'est toutefois jamais parvenu à demeurer sobre plus de 100 jours.
Mais c'est dur d'atteindre le 120 jours puis d'avoir ton chip de 120 jours, oui. OK? On s'entend? Non, mais c'est dur pour vrai. Ouais. Ça, c'est pas
oui,
vrai.
Oui, non, c'est la première période de sobriété est la plus difficile parce qu'après, ça devient comme un réflexe.
Oui.
Mais je comme... On peut aussi faire une mauvaise blague qu'en effet, quand t'as des jumeaux, ça prend peut-être une couple de lignes de cocaïne, mais...
Non, je pense que c'est peut-être moins dangereux pour la santé de tes enfants de tomber dans l'enfer du vivant ou une affaire de même pour pas dormir. Des amphétamines. On veut pas dire à personne de consommer des amphétamines. Buvez du café à la place, mais comme... Oui, oh, je comprends, le sleep deprivation, c'est vraiment...
Quelque chose.
C'est quelque chose, mais la drogue n'est pas la solution.
Non.
Non.
La drogue,
pourquoi
c'est...
Pourquoi se droguer? C'est ça. RBO.
Partie 5. La fin de la lune de miel. Au départ, la cohabitation de Chantal Eustachio et les deux jeunes filles de Chantal se passe plutôt bien. Quand Chantal rentre du travail aux petites heures du matin, c'est Eustachio qui prend la relève et prépare les petites pour l'école. Mais rapidement, les choses se gâtent et le comportement d'Eustachio change du tout au tout.
Ah ben.
Au travail, Eustachio ne supporte pas que des clients parlent avec sa conjointe. Guylaine se rappelle. Il guettait Chantal tout le temps. Il l'envoyait nettoyer des tables pour s'occuper des clients au bar à sa place. Il s'imposait de plus en plus.
Oui.
Elle s'est rendue compte qu'il était jaloux, possessif et manipulateur. Mais c'était son patron, elle n'avait pas le choix de l'écouter.
Ça devait être super agréable pour les clients, ça.
Oui. Elle avait peur de perdre son emploi alors elle faisait tout ce qu'il lui demandait.
Mais oui, parce que c'était toute sa vie.
Ce qui me terrifie.
C'était tellement important pour elle, elle avait dit, c'est son indépendance.
Puis comme, lui, là, il est dans une position parfaite, là. C'est son patron, il peut la manipuler comme qu'il veut.
Mais t'imagines-tu, là, t'es comme, je sais pas, des touristes qui ont comme, ils ont du fun, puis là, ouais, il est comme, non, Chantal, va-t'en dans le fond là-bas. Bon, qu'est-ce que vous voulez, vous autres, là?
Qu'est-ce que tu veux, tabarnak?
Je peux-tu te servir vite, puis tu crées ton camp, là?
Je peux-tu avoir un autre fashion? Non, fuck you, c'est bonne bière.
Non, fuck you, je vais te donner un coke, va-t'en!
Un coke flat!
Oui, un coke flat! Puis c'est pas du coke, c'est du kick cola, parce qu'on peut pas acheter la vraie marque. Non. OK, bon.
À la maison, Chantal refuse cependant de se soumettre aux demandes d'Eustachio. Chaque fois que celle-ci rentre plus tard que prévu du travail, celui-ci l'accuse de l'avoir trompée avec des clients du bar. À plusieurs reprises, Chantal en a assez des crises de son conjoint et le met à la porte parce qu'elle est une Québécoise!
Ouais?
J'ai décidé que c'était ça.
Ok, j'étais comme, il disait ça dans un tour, c'est proche!
Ça, c'est moi, je suis comme, parce que c'est une Québécoise!
Oui.
Yes!
Parce que c'est une Québécoise, ce sera un bon slogan pour notre ligne de t-shirt.
Oui!
Manque juste à trouver quelle illustration on pourrait avoir avec ça, mais je sûr que ce serait très beau.
Juste un point!
Parce que c'est une Québécoise! Oh oui!
Puis, Chantal en a assez et décide de mettre un terme à sa relation avec Eustachio. Elle lui rend ses affaires, elle lui dit de ne plus revenir. Si Eustachio n'accepte pas la rupture, il quitte tout de même l'appartement de Chantal pour se rendre chez sa sœur.
La sœur de Chantal?
Non, la sœur d'Eustachio.
OK.
À sa sœur, Eustachio dit qu'il n'en peut plus de la pression qu'il ressent à cause de ses disputes incessantes avec Chantal. Je pense qu'il y a comme un... Je pense que le point à corriger, c'est plus ton attitude. Ah, j'ai mis mon chandail, apporte pas ton attitude de mal.
Ben, c'est bon, ça, mais je veux dire, c'est qui est cause les chicanes, oui. Monsieur Chose?
Hein? Hein?
T'as juste à pas partir les chicanes?
Je pense que...
C'est la solution en plus, pas mal évidente.
Mais c'est qu'en plus, s'il laisse pas travailler au bar, il prend ses tips.
Oh non. Mais c'est un gérant!
Mais...
C'est terrible, il doit être payé plus qu'elle,
anyway. Mais tu penses vraiment que c'est un gérant qui distribue les tips de manière équitable, là?
Ah, peut-être.
Je sais que là, je fais de... C'est dans ma tête, là, mais je suis comme... Moi, ça sonne comme, tu sais, la madame, là, à Hotel Nightmare ou Kitchen Nightmare, qui volait des tips de ses employés, là. Je me sonne un petit peu de même. La sœur d'Eustachio lui conseille alors de consulter un médecin qui le réfère éventuellement à un psychothérapeute.
Mon quand... Ça a fini par fonctionner, c'est pas ça?
Mais oui.
Tabarnouche.
Quand Eustachio confie au propriétaire de l'hôtel auquel le bar appartient qu'il traverse un épisode dépressif, ceux-ci lui offrent d'engager quelqu'un pour l'aider.
Ah, c'est gentil. C'est gentil. Peur qu'il les mette à la porte ou quoi. Si quoi? Eustachio... La santé mentale, voici la porte! J'avais peur que ça s'en allait dans
T'es un homme qui fait une dépression inacceptable! Coup de bâton en arrière de la tête!
Oh non!
Si Eustachio accepte d'abord l'offre, il change d'avis en apprenant que la personne qu'il compte engager est... Serge, le meilleur ami de Chantal.
Oh! Ben là, il était tellement bon, Serge, au début.
Ben oui. Donc. Les patrons d'Eustachio lui disent toutefois qu'il n'y a aucun mot à dire sur le retour de Serge.
Ouais, parce que c'est pas lui le boss.
Exactement. Pas même, ça marche. Eux autres sont comme au-dessus de lui.
Ah! Oh.
Fait que ta gueule. Chantal est aux anges en apprenant le retour de son ami. Celle-ci lui confie toutefois qu'elle craint la réaction d'Eustachio quand il le verra pour la première fois. Serge rassure Chantal et lui dit qu'il vient seulement pour aider à éteindre quelques feux. Entre-temps, Chantal avait accepté de donner une seconde chance à Eustachio, qui était de retour sur son toit. Malheureusement, malgré la thérapie, Eustachio n'a pas changé et les crises de jalousie reprennent. Serge étant de retour au restaurant, Chantal prend son courage à deux mains et décide de mettre à nouveau un terme à sa relation. Et là, un tueur si proche fait un maudit bel exemple de c'est quoi du victim blaming. Chantal ne s'aperçoit pas de l'état fragile dans lequel Eustachio se trouve et du danger qu'il peut représenter pour elle.
Merci.
Note, si vous vous sentez en danger auprès de quelqu'un, vous avez le droit de quitter une situation volatile. La santé mentale d'une personne n'est pas votre responsabilité. Oui, vous pouvez aider quelqu'un, mais pas au détriment de votre propre santé mentale ou de votre sécurité physique.
Ben non, puis je veux dire, c'est totalement possible de ne pas voir des signes avant-coureurs, là. Tu sais, on dit toujours, là, que comme avec du recul, c'est tout facile de
hindsight
voir.
Hindsight is 2020.
Hindsight is 2020, c'est tout le temps ça. Mais c'est ça, je veux dire...
Mais aussi...
Il n'a pas vu les signes avant-coureurs, ben c'est terrible, quel idiote! Non, pas prendre tout, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça?
Non, puis comme...
Si elle les avait vus, elle serait partie, si dans un monde parfait, ça fonctionnerait de même, mais on n'est pas dans un monde parfait, voyons donc!
Puis vous n'êtes pas tenu de rester avec quelqu'un qui fait une dépression et qui vous la fait subir, là. Comme, oui, c'est bien d'aider votre conjoint et votre conjointe qui traverse un épisode dépressif, mais si c'est à vos dépens, vous devez penser à votre propre sécurité, à votre propre santé mentale à vous, là.
Ah oui, puis elle a des enfants aussi, tu sais.
Puis c'est ça, elle voulait protéger ses filles.
Ah oui.
Le soir du 20 octobre 2004, Chantal rentre chez elle et trouve Eustachio dans son lit. Elle lui annonce qu'elle a décidé de rompre et que cette fois, elle ne reviendra pas sur sa décision. Voulant toutefois éviter une scène qui pourrait réveiller ses filles, elle lui permet de rester pour la nuit.
Oh non!
Partie 6, la rage, puis le red flag pour... violence conjugale.
Trigger warning?
Oui.
Plutôt? OK, ouais. C'est comme les red flags de violence conjugale sont là depuis longtemps! Ouais.
Trigger warning. Le 21 le 21 octobre au matin, soit le lendemain de l'annonce de Chantal à Eustachio comme quoi leur relation est terminée. Chantal se lève pour aider ses filles à se préparer pour l'école. Une fois ses filles parties, elle retourne dans sa chambre et ordonne à Eustachio de ramasser ses affaires et de quitter l'appartement avant que ses filles ne reviennent, sur l'heure du midi. Mmh. Eustachio refuse cependant de s'exécuter et une dispute éclate. À ce point-ci, on ignore exactement ce qui s'est passé, mais voici ce que les experts ont pu déterminer à partir des indices laissés sur la scène de crime. Excusez. Pris de rage, Eustachio quitte la chambre à coucher de Chantal pour aussitôt revenir avec un marteau. Il pousse Chantal sur le lit, se met à cheval sur elle et utilise le manche du marteau pour l'étrangler en comprimant sa gorge. Celui-ci use d'une force si brutale que le manche finit éventuellement par casser.
Ben voyons donc, sacrement!
Selon les médecins légistes, l'altercation à elle seule aurait suffi à rompre la trachée de Chantal. Mais Eustachio n'avait pas fini. Il lâche le marteau et se rend dans la cuisine pour saisir un couteau. Il retourne dans la chambre et poignarde Chantal à plusieurs reprises. Encore une fois, il fait preuve d'une telle violence que le couteau finit par plier en deux. Eustachio le lâche et retourne dans la cuisine pour saisir un autre couteau. Selon Annie Sauvageau, la coroner qui a pratiqué l'autopsie de Chantal, elle aurait été poignardée à 15 reprises au niveau du thorax et de l'abdomen. De ses coups, 13 étaient mortels. Chantal ne bouge plus. Eustachio couvre son corps avec le couvre-lit et s'empresse de fermer le rideau de la chambre. La panique s'empare de lui. À l'aide d'un stylo, il inscrit sur le mur de la chambre de Chantal « Plotte un jour, plotte toujours » et rédige une lettre de suicide adressée à Joanne et ses trois enfants et une lettre d'amour à l'intention de la gardienne des filles de Chantal.
What? Mangeons de la merde, Eustachio!
Finalement, Eustachio change d'idée. Il prend une douche, se change et s'installe sur le perron de la maison pour intercepter les filles de Chantal lorsqu'elles reviennent sur l'heure du dîner. Il leur annonce qu'il va les amener dîner au McDonald's. Les filles sont surexcitées mais demandent à pouvoir embrasser leur mère avant de quitter. Eustachio refuse, prétextant que Chantal est partie faire l'épicerie. Après avoir amené les petites au restaurant, Eustachio les dépose à l'école et se rend chez Joanne, son ex. Puis là, je vous avertis, il y a beaucoup de claques qui se perdent dans cette histoire-là. Une fois entré, il lui annonce qu'il vient de tuer Chantal. Il lui remet une boîte contenant une importante somme d'argent. En panique, Joanne lui tend le téléphone et lui ordonne d'appeler immédiatement sa sœur. Eustachio obtempère et à l'autre bout du fil, sa sœur lui ordonne d'appeler immédiatement son frère.
OK, c'est qui va appeler la police là-dedans?
Je sais pas, apparemment on joue au téléphone, là. À son frère aîné, Eustachio demande s'il doit se livrer à la police ou s'enfuir. La seule personne de son entourage ayant une hostie tête vissée sur ses calices d'épaule, son frère lui dit de prendre ses responsabilités et de se rendre à la police. Vers 1h30, Eustachio retourne à l'appartement de Chantal et de là, il appelle la police pour se livrer. Quand les agents arrivent, Eustachio ne résiste pas. Il leur tend les poignets et leur demande de faire vite avant que les filles ne reviennent de l'école. Les nouvelles se propagent rapidement et c'est via un bulletin de nouvelles que Madeleine, la grand-mère de Chantal, sera alertée de la tragédie. Aux nouvelles, j'entends qu'une jeune mère de deux enfants vient d'être assassinée. Puis je vois la maison, je reconnais la porte. Là, j'étais pas moi, ni mon mari. On n'a même pas barré nos portes, on est partis. On est allés là-bas comme deux fous. Je peux même pas imaginer.
C'est non bien terrible.
Guylaine va apprendre au téléphone le décès de son amie. J'ai un téléphone venant d'un employé qui est encore au bar. Elle m'appelle le soir en me disant « Assis-toi, j'ai quelque chose à te dire. » Chantal s'est fait tuer par Eustachio. J'en revenais pas. Dégueulasse de même. C'est pas rien qu'un coup de fusil, là. Le lendemain, Eustachio est accusé de meurtre au deuxième degré. Il est incarcéré à la prison d'Orsainville. Je vais prendre 2 secondes.
Oui.
Ah, je peux pas imaginer voir la porte. Oh, nouvelle.
Ça vient tellement me chercher.
Partie 7. La lâcheté. Le 12 décembre 2006, Eustachio Galaise est appelé à témoigner à son propre procès pour le meurtre de Chantal Deschênes. Il est à noter que celui-ci plaide, non coupable, pour légitime défense.
Non.
Celui-ci raconte une version qui s'éloigne du scénario imaginé par les experts en scène de crime. Au dire de Galaise, c'est Chantal qui serait arrivée dans la chambre avec un marteau après qu'il lui ait dit de fermer sa gueule et de le laisser dormir. La voyant lever le marteau, il aurait tenté de protéger son visage avec ses mains et c'est là qu'il aurait reçu un coup qui lui aurait fait perdre le contrôle. Ainsi, c'est seulement après avoir été supposément frappé par Chantal que Galaise lui aurait arraché le marteau des mains. Il se serait servi du manche pour la frapper au visage et à la tête. Celle-ci se serait alors effondrée sur le lit et c'est à ce moment que Stachio se serait mis à cheval sur elle pour lui envoyer des coups avec le manche de l'outil.
Ben voyons donc, tabarnak!
Quand le manche éclate, Eustachio déclare qu'il avait si peur que Chantal tente à nouveau de l'attaquer qu'il s'est rendu dans la cuisine pour prendre un premier couteau et un deuxième quand celui-ci a plié sous la force de ses coups.
Ben voyons donc, mais tu peux juste t'en aller!
Oui, tu peux crisser ton camp puis crier à l'aide, puis tu peux appeler la police.
Mais il y avait pas de blessure quand il s'est fait arrêter par la police non plus? Ok.
Je capote, je constate les dégâts. Il y a du sang partout, c'était pas beau. J'ai pensé me crisser en bas du pont.
Toi, t'es pas beau. Calisse!
Même s'il admet qu'il n'acceptait pas que Chantal rentre tard ou exhibe un comportement vulgaire sur son lieu de travail, Eustachio jure qu'il ne lui a jamais fait de crise de jalousie et n'a jamais tenté de la contrôler. De nombreux témoignages faits par des proches de Chantal viennent toutefois contredire la tentative de Stachio de se peindre comme la victime d'une femme vulgaire à la libido déchaînée qui lui avait relégué la garde de ses enfants pour s'amuser dans un bar.
Voyons donc, calvasse, c'est quoi cette défense-là?
Je sais pas.
C'est quoi son esti de problème, encore une fois?
C'est un esti de lâche. Pas capable d'assumer la conséquence de ses actes. Il a demandé à son frère s'il devait se livrer à la police ou se sauver. Chris. Assume, là.
Mais c'est vraiment un esti écœurant.
Parmi ses témoins, on note la mère de Chantal et la gardienne des filles.
Mm-hmm. Avec la lettre d'amour.
Ah oui, la belle lettre d'amour.
Ah, c'est beau, c'est tellement beau.
J'ai pensé me crisser en bas d'un pont, mais pas avant d'écrire une lettre d'amour à notre gardienne de 15 ans. Et avoir écrit « plot un jour, plot toujours » sur le mur.
Mon Dieu, j'y souhaite d'avoir toujours une petite garnotte qui pique dans ses chaussures, là, pour le reste de l'humanité, à ce gars-là.
La gardienne rapporte avoir déjà entendu Eustachio hurler à Chantal « Si tu veux que je parte, personne ne t'aura. » La mère de Chantal déclare que Chantal lui avait déjà confié qu'Eustachio l'avait menacé que si elle envisageait un jour de le quitter, qu'il la défigurerait. Le chauffeur de taxi qui a conduit Chantal chez elle après son quart de travail du 20 octobre raconte pour sa part au jury que celle-ci lui semblait nerveuse, préoccupée. Quand il tente de lui demander ce qu'il ne va pas, elle lui a confié qu'elle comptait rompre avec son amoureux et qu'elle avait peur. Un des policiers ayant procédé à l'arrestation d'Eustachio rapporte également qu'au moment de lui passer les menottes, celui-ci lui aurait dit « Si tu savais ce qu'elle m'a fait subir, t'aurais fait la même chose. » Un orthopédiste va venir réduire à néant la plaidoirie d'autodéfense que les avocats d'Eustachio tentent de monter pour leurs clients. En effet, en observant une radiographie de la main de l'accusé qui aurait reçu un coup asséné par Chantal,
Ben oui.
L'expert la décrit plutôt comme étant la blessure du boxeur, soit une fracture faite à la dernière jointure de la main, ici.
Ouais.
C'est un...
Sur l'index.
Sur l'index, ouais. Proche de là où nos doigts se joignent à notre main.
Oui.
Et qui est provoquée lorsqu'on porte un coup sur une surface dure, par exemple du gyproc, ou la face de ton ex-conjointe qui avait plein de bleu à la figure. L'orthopédiste est également catégorique. Quand on tente de se protéger la tête ou le visage,
ouais.
Nos réflexes nous portent à présenter nos paumes.
Ben, c'est ça.
Pour attraper l'objet.
Oui, t'as des blessures à tes avant-bras puis à tes paumes.
C'est ça, puis on a tendance à montrer nos paumes pour essayer d'attraper l'objet ouais. avec lequel on nous frappe.
Ouais.
Ou si on présente le dos des mains, c'est plus parce qu'on utilise nos avant-bras puis que nos mains vont être sur notre tête.
Ouais.
Pas dans notre visage. J'ai le micro.
Mais là, c'est... OK, là, son argument, là.
Ouais.
C'est que elle a swingé un marteau qui lui a fait la fracture du boxeur. OK? Fait que c'est sa bonne main.
Oui.
Je veux dire, c'est sa main qui...
Oui, oui, c'est sa main dominante. Whatever.
Sa main dominante. J'ai pas de mots aujourd'hui. Puis après ça, lui, il est allé prendre non pas un, mais deux couteaux. Puis il a pris oui. aussi le marteau avec sa main dominante qui était fracturée.
Oui.
Pour lui calisser des coups.
Jusqu'à ce qu'il pète.
Jusqu'à ce qu'il pète. Puis qu'elle était déjà visiblement morte, là.
Ah, oh, je vais y revenir
parce
aussi.
Parce que sa trachée était cassée.
Oui.
Fait qu'elle était morte.
Oui.
Puis après ça, il est sorti, puis il est allé chercher un couteau, puis il est revenu. Avec sa main dominante, il l'a poignardé.
Tellement fort que le couteau a plié.
Oui, le couteau, il a plié. Puis il est ressorti, puis il est allé chercher un autre couteau, puis avec sa main dominante, il l'a poignardé encore.
Oui.
Si tu me casses le pied demain, je vais pas aller courir un marathon en réaction à ça, là.
Non.
Mais c'est donc ben pas de bon sens.
Non, puis comme...
Ces avocats de la défense, les criminalistes devaient s'arracher les cheveux de sa tête.
Mais comme... La légitime défense,
qu'on fait avec ça,
ça existe.
Ben oui, absolument, mais c'est comme eux autres, tu devais se dire « qu'est-ce qu'on fait avec ça, tabarnak?
» Mais la légitime défense, c'est comme dès que tu réussis, tu te sauves.
Ouais, aussi.
Puis la majorité du temps, même les gens que leur vie était en danger extrême, s'ils ont réussi à enlever l'arme de leur assaillant, ils ne l'ont que blessé et mm-hmm. se sont empressés de se sauver pour appeler des secours.
Mm-hmm.
Puis aussi, ça a été... prouver que psychologiquement, je pense que c'est quelque chose comme 90% des gens qui ont un kill switch, qu'on n'est pas capable de prendre une vie. Même si la nôtre est en danger, on n'est pas capable de tuer quelqu'un.
Non, ouais.
Non. Comme probablement que toi puis moi, même si on était en extrême danger, notre réflexe, ça serait plus de blesser quelqu'un. Puis d'aller
ouais.
appeler des secours.
Ben ouais, je comprends.
Parce que prendre la vie de quelqu'un, ça te change. T'es pas la même personne après. C'est pour ça que l'armée...
Ah oui, mais pourtant, regarde, les vétérans, oui. ça va tellement bien.
Oui, ça va bien.
C'est super, surtout aux États, ça va super bien.
Et oui.
C'est tellement bien.
En passant, c'était pas un jugement de valeur sur les anciens militaires, là, mais comme...
Non, pas du tout. C'est plus qu'ils n'ont pas le soutien dont ils ont besoin. Là.
C'est ça. Fac. La légitime défense, souvent, la personne va plus avoir blessé l'autre personne. Puis si elle l'a tué, c'est seulement un coup de fusil.
Mais what about les gens craqués dans le plafond au Texas, là, qui sont
ah
comme...
Oui, stand your ground.
Stand your ground, c'est ça. Hey, il y a quelqu'un qui trespasse sur ma terre, je vais y tirer avec un shotgun en arrière de la tête si tu la légitime défense, ça?
C'est considéré comme oui, mais comme... Faut vraiment que tu prouves que ta vie était en danger.
C'est donc bien, je sais, mais c'est donc bien insane, comme... En tout cas, c'est... Moi, tous les cas que j'ai entendus, dont j'ai entendu parler, où ils utilisaient la défense de stand your ground, là, il y avait quelqu'un qui essayait de trespass chez nous.
Oui, la personne a fini en prison.
Oui, la personne a fini en prison, parce que c'est jamais des gens non. qui sont armés, puis c'est jamais vrai. C'est plus
ouais.
un problème de santé mentale qui fait que t'es paranoïaque, puis tu penses que tu te fais attaquer par du monde, puis c'est pas ça qui s'est passé.
Ou t'as vu une personne racisée dans ton quartier.
Ah ouais, pour vrai?
Oh non, je l'ai dit! Oh whoops!
Puis c'est vrai ça, tu vas le pourchasser avec ton pick-up, puis le filmer pendant ouais. que tu le...
Non, mais c'est légitime défense,
bah,
là.
Bah, mort, ouais.
Comme, je veux dire, c'était dangereux, là. Il portait des New Balance de neuf.
Ben oui, je sais!
Ça court vite, ces souliers-là.
Ça
là.
Court vite en tabarnouche. C'est pas grave que t'es dans un pick-up. Ton pick-up va pas aussi vite
non.
que personne qui court avec des
il
New Balance.
Il porte pas des souliers New Balance.
Non.
J'espère que les gens savent que c'est comme de l'ironie depuis tantôt.
Oui, on parle de l'affaire de Ahmaud Avery.
Oui.
OK, bon.
C'est... Puis que c'est comme du gros sarcasme
oui,
depuis
oui, oui,
tantôt,
oui.
là.
Oui, oui. OK. Ouf. Assez d'aparté sur la légitime défense.
Les experts en scène de crime...
It gives légitime défense a bad name en tabarnouche.
Oui. Comme les
Shout
actual...
Shout to the heart, and you're to blame. You give legitime défense a bad name. C'est de ça que
comme
ça parlait la tune de Bon Jovi.
Les femmes qui veulent vraiment comme se protéger d'un conjoint violent,
oui.
là, ils vont pas faire ça.
Ben non, puis je veux dire, quand ils finissent par faire ça, ben ça fait comme freaking l'affaire de Loretta Bobbitt.
Lorena Bobbitt.
Lorena Bobbitt. Ouais, il me semblait qu'il y avait trop de T dans cette affaire-là. Puis là, tout le monde est comme « ha 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 ha,
trop
c'est
lol.
Juste une pute, puis ça existe pas, le syndrome de la femme battue. » Et mangez donc de la merde.
Exactement.
Voilà.
Puis comme ce que j'adore légitime défense, oh mon Dieu, j'ai tellement peur qu'après je suis restée à faire des graffitis dans sa chambre, à écrire des lettres d'amour à notre gardienne underage.
C'est... Oui.
Fuck you.
Ben oui, 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 oui. Voir qui va revenir après ça, lui.
Les experts en scène de crime révèlent également que suite à son décès, le corps de Chantal était recouvert de sang, mais seulement de la tête à la taille, indiquant que celle-ci était sous une couverture lorsqu'elle a été attaquée.
Pour vrai?
Oui, elle était couchée. Fait que son affaire de « est partie, est allée chercher un marteau » puis
oui, ouais.
Elle n'a jamais bougé de son lit. Le sang, il était sur sa tête, son torse, puis le reste du sang était sur la couverture.
Ah, oh, fait que c'était pas
ou
vrai
sur qu'elle... lui, parce qu'il était à cheval sur elle, fait ouais. Que lui, il l'a reçu, fait qu'elle n'a pas eu sur ses jambes.
Mais au début, t'étais comme « ah, oh, il a dit de partir, puis tout. »
Ben, elle s'est recouchée.
Ah, oh, okay.
Il est sorti du lit pour aller chercher le marteau, puis elle, s'est recouchée parce qu'elle pensait pas mourir ce jour-là.
Parce qu'elle pensait qu'il allait partir, comme une personne raisonnable.
Comme, on passe pas nos vies à penser que nos conjoints vont nous poignarder.
Non, ce serait bien
en tout cas, si vous passez vos journées comme ça, je vous rappelle les ressources qu'on a nommées au début de l'épisode.
Ouais.
Je juge pas votre vie. Rappelez-vous des ressources qu'on a nommées au début de l'épisode. Je comprends qu'il y a des situations difficiles.
Mettons que ce n'est difficile. Pas dans le royaume de la relation saine. Là,
voilà.
Ouf.
L'absence de sang sur les jambes de Chantal signifie que celle-ci n'est jamais sortie du lit tout au long de l'altercation et qu'elle a probablement même été prise par surprise pendant qu'elle dormait ou s'apprêtait à s'endormir.
Ouais, c'est ça.
Le 16 décembre 2006, le verdict tombe. Eustache Ogalaise est reconnu coupable du meurtre non prémédité de Chantal Deschênes et est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. Avant 15
ans?
15 ans, parce que c'est meurtre au deuxième degré.
Ouais, whatever happened to 25 ans, ça ne tentait pas de faire ça.
Ça, c'est premier degré.
Oh, ça le fun, mais c'est que... Est-ce que... Ben, t'auras pas la réponse à ça, mais est-ce que un meurtre prémédité était dans les possibilités de verdict?
Il y a pas eu beaucoup de couverture de l'affaire, mais okay. Non, je pense que c'était comme deuxième degré ou ce plaidoyer de légitime défense fait foule de sens. C'est clairement ça qui est arrivé.
Ouais, mais c'est parce que dans ma tête, la préméditation, ça commence à partir du moment où tu sors de la chambre puis tu vas chercher un couteau, puis tu ressors de la chambre puis tu vas chercher un couteau. Ça, c'est les moments où t'aurais pu arrêter.
Ben ça.
C'est plus du deuxième degré, c'est du premier degré.
Ben ça, puis que c'était pas la première fois qu'il la menaçait, fait que je pense que.
Non plus, mais je veux dire, ok, tu sais, il pète sa coche, il la tue, il a pas planifié ça. Là, c'est, je sais pas, t'as un blackout mental total, tu t'en rappelles pas pis tout, mais je veux dire, sortir de la chambre, revenir, sortir de la chambre, revenir. Aller accueillir les filles, partir, après ça, aller... T'sais, il y a plein d'affaires là-dedans que c'est comme, non, c'est...
Ben, c'est un peu comme Jocelyn Hutt aussi.
T'as fini par y réfléchir un peu, là. Ouais.
Décider d'aller chercher son gun pis poursuivre Lucie sur l'autoroute.
Oui, ben ça, c'est de la méga préméditation. Ben, c'est ça!
Mais écoutez...
C'est-tu si dur que ça, prouver la préméditation? Les criminalistes vont pouvoir nous le dire.
Ouais,
ou les procureurs...
Les avocats qui nous écoutent. Je sais qu'il y en a, des avocats-avocates qui nous écoutent. Si vous voulez nous expliquer comment qu'on mesure la préméditation, ça nous intéresserait de savoir. Parce que moi aussi, je me dis comme, ouais, mais comme le temps que t'es sorti de la chambre, t'as été chercher un marteau, t'es revenu dans la chambre, tu l'as frappé, t'es sorti de la chambre, t'es allé prendre un autre couteau.
Ouais.
Comme... Non, là.
T'es pas obligé de faire un plan pendant 15 ans avant de tuer quelqu'un pour que ce soit de la préméditation, là. J'ai l'impression que c'est des degrés de préméditation, ça aussi.
En tout cas, fait que les avocats, avocates qui nous écoutent, vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne.
15 ans!
Après la tombée du verdict, Eustache Ogalaise présente ses excuses à la famille de Chantal.
Ah ouais, mange la marde.
Et déclare qu'il ne s'attend pas à ce qu'il les pardonne.
Oui, absolument.
Première fois que t'as raison.
Ben ouais, OK.
Pour ce qui est des deux filles de Chantal, qui étaient alors âgées de 8 et 12 ans, c'est Louise Deschênes, la mère de Chantal et grand-mère des deux petites filles, qui obtient leur garde. Et c'est 15 ans plus tard qu'on se retrouve pour la deuxième partie de cet épisode.
Mais pourquoi il est sorti? C'est là qu'on va pogner une heure contre...
Oh, on va pogner les nerfs, là?
Ben, j'ai pogné les nerfs contre bien les affaires.
Dans le deuxième épisode, ça va être le festival de pogner les nerfs.
Ouais! Mais c'est bon, je suis bonne là-dedans.
Comme on va faire des ulcères d'estomac dans la deuxième partie.
OK. Mon Dieu. Pas prête pour ça, là!
Ouais, on va en péter des coches, là.
Oh mon Dieu, mais c'est donc bien dégueulasse.
On va puncher un Jeep-Rock. On va aller s'acheter un Jeep-Rock juste pour le puncher.
Oui. Mais tu sais, je m'en vais de mon logement. On peut-tu puncher quelque chose ici?
Ouais, ouais. Ça, c'est plus à toi. Ouais, c'est plus ta responsabilité.
Ça m'appartient plus, anyway. Yay!
Fait que c'était la première partie.
Ouais.
De Eustachio Galaise.
OK, cool.
Puis, il y a juste une chose que je tiens à dire, puis tu vas peut-être me dire que c'est pas relevant, mais Dark Poutine ont fait un épisode sur Eustachio Galaise.
Ouais.
Et quand ils parlent de quand Eustachio, il a écrit « Plot un jour, plot toujours
mm-hmm. »
sur le mur, Dark Poutine, qui est un podcast canadien anglophone,
ouais.
ne savait pas ce que ça voulait dire.
« Plot ».
Et au lieu de faire un appel à tous, ils l'ont juste dit « Plot one day, plot always
mm-hmm. ».
Et les deux faisaient juste se dire « Ah, mais pourquoi? » Tu sais, comme un plot twist, mais comme qu'est-ce que ça veut dire?
Ça s'écrit pas pareil, à moins que Sacha, ça va pas écrire.
Ce qui est aussi possible. Oh, mais je me disais comme « Mais vous avez des fans québécois. Pourquoi vous n'avez pas fait un appel à tous? »
Pourquoi tu l'as pas cherché sur Google?
Oui, je comme ça se trouve, cette information.
Ben, là. Je vais pas dire que c'est pas relevant parce que ça tombe dans ma table des petites affaires niaiseuses qui me font pas gagner. Puis que, ouais, je vais, I'm gonna die on that hill. Tu sais, c'est le nombre de podcasts qui couvrent des cas qui sont français ou québécois ou suisse ou belge ou whatever. Puis qui prononcent les noms absolument tout croche. Puis qu'il y a des questions que c'est genre lié à la culture. Puis ce serait très très facile. En 3-4 minutes, tu peux googler ça puis tout comprendre le background. Là. Puis qu'ils le font pas, je suis comme, ben voyons donc. On leur enlève leur plateforme.
Mais c'est comme, tu sais, Dark Poutine, ils ont fait de la très bonne recherche. Comme, ils ont vraiment bien pris le temps de faire des recherches puis tout ça. Mais c'est un podcast que ça fait plus longtemps que nous qui sont around.
Ben oui.
On sait qu'ils ont un gros fanbase québécois sur notre Discord. Il y a des gens qui discutent de Dark Poutine.
Ah oui, mais c'est habituellement, c'est bon.
Il aurait pu juste faire un appel comme « Hey, on fait un cas au Québec, il y a un mot qu'on comprend pas, est-ce que quelqu'un peut nous aider? » Il aurait eu la réponse en 5 minutes.
Ben oui, comme le monde qui nous reprenne sur les prononciations des places.
Oui, c'est comme pas long, puis...
Puis là, je suis en train de me dire que j'ai mal prononcé Master Yatch au début. J'ai dit Master Yatch, hein? Mais tu te trompes encore?
C'est
il va où le chip là tu
mais c'est Master Yatch, non?
Ben voilà. Mais je pense que j'ai dit... Ah non, c'est ça que j'ai dit. Bon, ben là, je viens de dire Master Yatch. Je l'ai dit à l'envers, là. Bon,
Master
ben c'est ça.
Yatch.
Ça fait tellement mal!
Okay. Hello.
C'est correct. Je vais googler des mots tantôt, tu vas m'aider.
OK.
Pour mon cas. Mais OK. Pas de suite. Mais non, moi, je trouve ça très relevant. Je trouve que c'est pas...
Parce que c'est comme un petit détail qui me fait faire que... Ça aurait pris 5 minutes, là. Puis, je veux dire, il y en a des dictionnaires de, comme, slang québécois.
Ben oui, il y en a.
Puis, j'aurais su que ça veut dire « cunt ».
Oh! See you next Tuesday.
Exactement. Oh! Ça veut dire « see you next Tuesday ».
On devrait juste traduire littéralement cette expression-là, puis... Oh, ça, c'est un maudit « on se voit mardi prochain
». C'est ça!
Ça serait drôle pareil. Mais ouais, non, moi je trouve que... Et je veux dire, Dark Poutine sont moins pires que d'autres, mais je veux dire, moi aussi, je prépare un épisode sur La Corriveau.
La Corriveau.
Et ils ont fait un épisode sur La Corriveau. Puis...
The Corriveau.
La Corriveau. Mais je veux dire, les noms des gens. Puis j'étais comme, ben je vais avoir besoin d'aller lire leurs sources pour comprendre quels sont les noms des gens, parce que je comprends rien quand ils parlent. Et aussi, ben c'était comme très limité, parce que, ben, mettons qu'il y avait comme un gars qui avait écrit un livre...
Ouais.
historique là-dessus, qui s'appelait An Uncertain Justice, puis je suis allée le lire pour faire mon cas, puis c'était comme pas mal moins détaillé et intéressant que les sources françaises qu'il y avait. Fait qu'à un moment donné, tu peux juste faire un autre cas.
C'est ça.
Mettons, c'était comme pas... C'est, quand je les sources pas sont pas aller lire plein de sources en espagnol pour vous raconter tout croche un cas qui se passe au Mexique, là.
Bon.
Ou en Espagne, ou dans tous les autres pays.
Espagnol.
Espagnol! C'est ça. Là, je me disais là, que j'écoutais d'autres podcasts qui sont des vrais podcasts professionnels.
Pas des faux podcasts.
Non, pas des faux podcasts amateurs comme nous autres. Là. Puis je me disais que eux autres, ils faisaient leur plug de leurs réseaux sociaux, puis tout, au début de l'épisode, au cas où le monde abandonne. Puis on devrait faire ça. On fait ça à partir de la prochaine fois.
OK.
Yeah! Fait que là, maintenant, on va plugger nos réseaux sociaux.
Si j'arrête de kicker la table comme
si
une épaisse.
Si vous êtes toujours des nôtres, bonjour, bienvenue. Non, mais merci pour votre soutien. Puis, si vous voulez en savoir plus sur nous, on est sur Facebook, @unpeudecrime, et sur Instagram, @unpeudecrime dans ton café. On a une boutique Etsy où on vend de la marchandise. et on va peut-être vendre des chandails qui disent parce que c'est une Québécoise ou je sais pas quoi. Parce que je suis québécoise.
Je suis une Québécoise.
Yeah, nous sommes Québécoises. Et donc, nous avons aussi, une plateforme Patreon. Vous pouvez nous offrir du soutien sur Patreon en nous donnant vos bidous. Et en échange, on vous offre plein de choses, y compris des épisodes bonus. Là, on est en retard sur
on
ce
cette année. On s'excuse, on a comme un gros début d'année.
Hey, ça a été quelque chose pour nous autres! Mais donc, c'est ça, on a eu un gros début d'année, mais on va vous mettre des épisodes bonus dès qu'on va pouvoir. Oui. Jusqu'à date, anyway, on en a déjà 8 disponibles.
C'est ça, mais ça s'en vient.
Puis c'est des gros épisodes. Au début, c'était des épisodes combinés, fait que ça durait genre 2h30, ça avait comme plus d'allure, pantoute. Puis éventuellement, on a décidé, OK, ça a plus d'allure, pantoute, puis on va
on n'est pas des personnes concises.
Non, c'est ça. Puis on a plein d'épisodes, si ça vous intéresse. On a couvert plein de cas qui avaient été demandés par beaucoup de gens aussi.
Oui.
Par exemple, Alpha B, Alexandre Caz, yes. L'histoire de Mafia Boy aussi, on l'a couvert.
J'ai essayé de comprendre comment ça fonctionne un Bitcoin.
Ben oui, moi j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionne, être un hacker des années 90. C'était pas facile!
No. On a travaillé fort!
On a travaillé très fort. Puis sinon, on a couvert plein d'autres affaires. Après ça, on est allé branch out. On est allé à l'international, yes, pour couvrir d'autres cas. Moi, j'ai fait un épisode sur la disparition de Maura Murray, qui est une histoire de disparition éminemment connue. Et donc, si vous voulez spéculer
et qu'on
avec
a résolu,
qu'est-ce qui est arrivé avec Maura? Moi, je pense qu'on l'a résolu. Moi mais aussi. Si vous voulez savoir qu'est-ce qui est arrivé avec Maura Murray, ben vous pouvez en discuter avec nous autres en écoutant notre épisode bonus. Toi, t'as aussi couvert la disparition, non, la mort inexpliquée de Tom Thompson.
La mort inexpliquée, très explicable de Tom Thompson.
Non, elle était complètement inexplicable et c'était possiblement la faute des Allemands.
Des extraterrestres.
Non, les Allemands. Parce que c'est... des racistes. Mais pas les Allemands, je veux dire, les gens étaient racistes envers les Allemands.
Ouais, Guillaume, le Métivierge est arrivé, puis...
Puis toi, t'es comme, non, va-t'en!
Non, va-t'en!
Tourne chez vous, plus personne veut de toi, y compris Yandé.
Exactement.
Yandai. Ah. Et donc, on a plein d'épisodes bonus. On a aussi une communauté de Discord, puis il y a quelqu'un qui nous a écrit sur Patreon, puis t'es comme, qu'est-ce que c'est ça, Discord? Qu'est-ce que c'est ça, Discord, Audrey? Veux-tu l'expliquer?
C'est un forum où on discute, oui, de plein de choses. Alors, c'est un, oui, peu comme avoir un gros groupe chat avec plein de sujets différents.
Oui.
Et Catherine et moi, on est là-dessus pour jaser avec vous de la pluie, du beau temps,
oui,
de nos chats, de nos chiens, de nos tatous et ces temps-ci d'impôts.
Oui, absolument. On a des comptables.
Apparemment, il y avait un besoin.
On a des comptables sur Discord qui peuvent répondre à vos
qui
questions d'impôts si ça vous tente.
Alors, on leur a créé un channel et vous allez leur poser des questions d'impôts.
Absolument. Sinon, on partage des photos de nos enfants, de nos chats, de nos hobbies, puis on parle d'actualité.
De stats.
On parle beaucoup de stats parce que ça joue à TV.
Exactement.
Et justement... Laissez-moi maintenant vous raconter.
Mais on n'a pas fait les shootouts.
Ah, oh, excusez! Mais j'avais trop hâte de raconter les histoires de... Ah! Mais là, il faut les scinder en trois, là, parce qu'on,
ouais,
fait trois épisodes. Ouais.
Je vais juste avoir besoin de regarder sur ton téléphone, parce que j'ai pas un peu de crime sur mon iPad.
Comment ça? T'enregistres pas toujours avec ton iPad?
Ouais, mais j'ai pas... Je sais pas, c'est parce que j'ai pas accès aux documents de crime sur mon iPad.
Ah, oh, mais gars, je peux toutes les faire, si tu veux.
OK. Ça va tout être dans la voix de Catherine.
Allô? Je peux faire des différentes voix, si ça vous amuse. Même si ça vous amuse pas, moi, faire ça. Puis là, je peux arrêter où est-ce que je veux.
Exactement. Désolée, j'étais pas préparée.
Ah, ben, c'est facile. OK. Fait que là, ça me prend trois voix différentes, parce que je vais en nommer trois.
Parfait.
Ariel F. Pocket. Merci. Là, celle-là, je m'excuse à l'avance pour ma prononciation. Merci beaucoup, Louise. Knipe.
Knep.
Et finalement,
merci, Jade Pelletier.
Merci. Voilà. Merci à Sonny qui s'est occupée de mettre notre liste à jour.
Oui, merci à nos sympathiques bénévoles aussi qui nous aident, Sonny et Andréane,
oui,
pour les remercier. Merci à notre sympathique bénévole monteuse étoile, Maui.
Yes.
Qui est absolument incroyable et qui travaille très, très dans l'ombre, tu sais.
Pour vous fournir ces épisodes sans nous qui disent des niaiseries.
Ben oui, le moins de niaiseries possible.
Exactement. Il y en a quand même.
Il y en a quand même beaucoup.
Sinon, il n'y aurait juste rien.
Ben oui, sinon, on n'aurait pas de contenu. Puis on ne serait pas rendu à 91 épisodes.
Exactement.
Yeah.
Woohoo.
Je peux-tu parler de stats maintenant?
Ben oui.
Oh, yes! Oh,
vas-y, non. Vas-y, mon chum.
Je vais vous parler de stats,
yeah,
maintenant. Yeah!
Stats. Oui, docteur Catherine.
Je vais lever des poids dans la salle des employés.
Okay.
Parce que maintenant, la salle des employés, c'est devenu un gym.
Oh yeah!
Parce que Marco, l'urgent
Tologue,
j'allais dire urgentiviste. Tabarnouche. C'est un intensiviste puis un urgentologue.
Voilà.
L'urgentologue, super chic, ce que tout le monde aime tellement sur Facebook.
OK, oui.
Toutes les petites matantes. Toutes les petites matantes le trouvent tellement beau, Marco. Il est tellement beau, Marco. Ben, il a amené tout son kit de gym, là.
Oh, yeah.
Tout son stock, y compris comme ça.
Son jackstrap.
Oui, puis son affaire pour les bench press, puis ses poids, puis son vélo stationnaire, puis tout. Parce que comme ça, quand il y a des temps morts à l'urgence, ce que je pensais pas qu'il était une affaire qui existait, il peut faire du workout. Apparemment, ça existe à Saint-Vincent. Fait que je suis en train de lever des poids et de te raconter une histoire.
Yes.
Qui allie...
Moi, je vais faire le rameur.
C'est une histoire qui allie l'amour.
Oh.
Du monde habillé comme s'il était dans le film de Clou avec Tim Curry.
Oh!
Du poivre de Cayenne.
Oh!
Puis, un cœur brisé.
Oh non!
Oh non! Ça commence quand deux personnes sont rushées à l'urgence.
Oui.
Parce qu'il y a eu quelque chose de mystérieux qui s'est passé pendant une noce. Puis là,
oh
y a la pauvre mariée est en train d'étouffer parce qu'elle a fait de l'asthme.
Oh
puis il y a quelqu'un qui a lâché quelque chose dans la noce. Puis il est capable de respirer. Puis là, il la rush à l'urgence. Puis là aussi, le best man aussi, il rush à l'urgence. Puis là, pendant ce temps-là, le marié, il court comme une poule pas de tête. Mais en fait, il est même pas là quand il arrive à l'urgence. On est comme, mon Dieu.
C'est parce qu'il court.
Oui, votre mari. Oui, parce qu'ils ont perdu les alliances.
Oh non!
Puis là, tout le monde qui assistait au mariage sont sérieusement habillés comme s'ils étaient dans un clou. c'est pas du linge que tu portes à un mariage.
Oh, well.
Pour vrai, on aurait dit qu'il était à une soirée de meurtre et mystère des années 20. C'est comme, ça avait pas de bon sens, le linge qu'il portait. C'était des espèces de robes avec des épaulettes en poêle, puis en plumes, puis des chapeaux, comme des tout petits chapeaux pinés sur ta tête. Puis j'étais comme, ben voyons donc.
Non, mais c'est les costumes de musée Eden.
Ah, oh, bon, voilà.
On va les rentabiliser!
C'est ça, les gens dans la section costumes étaient comme, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Donc, ah, musée Eden! Hey. C'était bon, ça! Super. Fait que là, tout le monde est là. Ah, oh, est-ce qu'ils sont corrects? Est-ce qu'on a trouvé les alliances? Puis là, le marié est comme, est-ce qu'on a trouvé les alliances? Puis là, les urgentologues, activistes sont comme, yo, monsieur, c'est parce que ta fiancée est comme en train d'étouffer avec l'asthme, fait que ça te tenterait pas de t'intéresser à ça. Non.
Comme yo.
Non, lui, il s'intéresse vraiment aux alliances.
Non,
les...
mon alliance avec la France contre les Anglais!
Puis là, tu sais, c'est une crise d'asthme, fait que, bon, c'est relativement routinier, là, comme affaire qui arrive aux urgences. Ils mettent ça sous contrôle relativement vite. Puis là, quelques minutes après, tout va bien, tout est beau, tout le monde est heureux, tout le monde est calme. Puis là, le best man, il se lève de son lit pour aller voir si la mariée est correcte, tu sais. Puis il tombe à terre!
Oh,
il s'effondre! Puis là, il fait, on sait pas quoi, un épisode cardiaque! Puis il faut qu'il réanime! Puis là,
c'est l'enceinte attachée ensemble!
Quoi?
il s'est levé puis il est tombé! Oh non, c'est l'enceinte attachée ensemble!
Ouais! Pauvre lui! Non, parce que son cœur a arrêté de battre. Tes lancers sont pas attachés sur ton cœur.
C'est tombé triste, on dirait une chanson de Carquois.
Je sais, son cœur a arrêté de battre. Puis là, pour le réanimer, ils sont pas capables avec juste les compressions. Puis là, ils essaient les électrochocs, une shot d'électrochocs, flac! Ça fonctionne pas. Puis là, Geneviève Schmidt, elle arrive, puis elle dit, moi, quand je travaillais à Riyad, parce qu'elle a été partie pendant une couple de semaines, parce qu'elle filmait le film des Belles-Sœurs. Voilà.
Ariad.
Puis là, nous autres, Ariad, on faisait des doubles électrochocs. Puis là, tout le monde est comme, mais on fait jamais ça ici. Puis là, comme, non, tu sais, arrache sa chemise, ils vont se trapper d'autres affaires d'électrochocs. Puis là, ils font un double électrochoc en même temps, pour le réanimer. Là, ça marche.
Puis là, il allume la place du mari.
Puis là, après ça, c'est ça, tout l'hôpital fait comme, puis là, tout le courant coupe après, parce que c'était trop d'électricité. Ouais. Non, le courant coupe pas.
Ah, okay.
Puis là, après ça, il l'envoie justement faire, tu sais, un électrocardiogramme, puis voir le cardiologue, puis tout, là. Puis là, ils sont comme, oh non. Il avait, lui qui était si jeune et qui semblait en si bonne santé, il a eu le syndrome du cœur brisé.
Oh non.
Oh non.
Oh!
C'est une vraie affaire. Attendez-moi, googlez comment ça s'appelle, parce que je m'en rappelle jamais. Mais il avait le syndrome du cœur brisé.
Ce n'est pas une puis chanson là, de Carquois.
Jacob Faubert, il est comme, hey, c'est donc bien triste, ça, le syndrome du cœur
brisé. Aïe, monsieur, c'est vraiment triste à patente.
Oui, ça s'appelle le syndrome de Takotsubo. C'est une c'est la cardiomyopathie de Takotsubo.
Pourquoi c'est un nom si drôle?
Je sais pas, mais je m'en rappelais pas comment ça s'appelait. Fait que là, il est comme, oh, c'est donc bien terrible, pourquoi son cœur s'est-il brisé? Puis là, il monte les deux aux soins intensifs, parce qu'il faut libérer des lits à l'urgence.
Ben okay? Oui, hein?
Là, c'est rendu important, là, il faut libérer des lits à l'urgence. À l'hôpital, c'est important, ça.
Oui.
Là, il en parle comme à peu près à toutes les deux minutes depuis deux semaines.
Oui.
Puis là, quand ils sont en haut, le genre comme Faubert, il va voir le gars, puis il est comme « Hey, t'as fait un taco de subo », puis là, t'es comme « Qu'est-ce que c'est ça? »
Quoi?
Hey,
j'étais dans un restaurant mexicain, je ne comprends pas.
Qu'est-ce qui se passe-t-il? Non, moi, j'étais comme « Ah, je suis allée chez, comment ça s'appelait, le restaurant où est-ce qu'ils font de la bouffe japonaise devant toi, puis ils crissent tout en feu, là, pour taco. Le fun de... »
Takoyaki?
Non, des takoyaki, c'est des boules de pieuvre.
Oui, en effet.
Non, moi, je parle de Benihana. Shogun. Il était au Shogun sur le boulevard Tachereau il y a 10 ans. Puis.
On s'en rappelle.
C'est là qu'il a fait un taco de subo. Non, mais c'est ça. Là, il parle avec. Il est comme, oh mon Dieu, ton cœur était brisé. Qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est très rare, ça. C'est très rare. Au point où, quand c'est arrivé, puis j'ai vu ça à TV. Moi, je suis allée sur Discord, puis j'étais comme, c'est pas une affaire qui existe pour vrai. Puis, mon Dieu, je me suis fait éduquer.
Hey.
Par
hey.
Apparemment, c'est de ça qu'elle est morte. La pauvre Debbie Reynolds, la mère de Carrie Fisher. Oh après non. le décès soudain de Carrie Fisher, le cœur de sa mère était brisé et elle est morte.
C'est donc bien triste.
Je sais, c'est triste. Genre, comme pour moi, t'es comme, c'est comme ça qu'elle est morte, la mère de la princesse Leia. Puis pourquoi? Pourquoi que t'as fait ça? T'es tellement jeune. Puis en plus, t'es... tu joues dans 5e rang. Qu'est-ce que tu fais en stats, comédien? Puis là, il finit par lui dire que c'est parce que il est amoureux
de la mariée, I guess.
De la mariée qui est la blonde de son meilleur ami. Puis ça lui a tellement pris le cœur d'être celui qui allait officier le mariage parce que, tu sais, ils ont demandé, puis il était comme, c'est mon meilleur chum, je peux pas te dire non, mais en même temps, je suis en amour avec ta blonde, d'accord? Puis là, punch final de l'épisode. Non, ça finit pas là, mais cet épisode-là finit de même. Il reçoit la visite dans sa chambre de la mère de la mariée.
Oh.
Puis elle est comme, t'es-tu correct? Puis elle est comme, oui, madame chose, merci. Pourquoi vous êtes à mon chevet? Votre fille est à côté. Puis elle est comme, la madame, elle répond, c'est parce que tout le monde sait que c'est pas toi qu'elle aurait dû marier. Non, pardon, c'est pas l'autre qu'elle aurait dû marier, c'est toi. T'as-tu clair?
Oui, tu sais,
ouais,
100%.
100%. Fait. Puis là, il est comme, mon Dieu, mais dites pas des affaires comme ça, madame chose. Elle est fiancée à mon meilleur ami. Vous pouvez pas dire qu'elle aurait pas dû se marier
avec mon meilleur ami depuis le HEC.
Puis là, il lui dit, mais non, tu sais, mais tout le monde sait que c'est avec toi qu'elle aurait dû se marier. C'est pour ça que j'ai mis du poivre de Cayenne dans les conduits de ventilation du mariage de ma fille. C'est sa mère qui avait fait tout ça, puis qui a provoqué une grosse crise d'asthme. C'est sûr qu'elle pensait pas qu'elle allait se ramasser à l'hôpital. Tout ça pour que, tu sais, à la place d'attendre le bout où est-ce que le célébrant demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à cette union, sinon fermez votre gueule pour toujours. Ben, au lieu d'attendre ça, elle a décidé de comme commettre un attentat. Au début, le monde était comme, mon Dieu, est-ce que c'est un attentat terroriste sur une noce? Qu'est-ce qui se passe? C'est bien weird.
C'était pas spécial à ce point-là.
Non, elle était pas spéciale à ce point-là, mais c'est quand même la mère de la mariée qui a comme saboté son mariage parce qu'elle pensait que son choix de fiancé était pas bon.
Je n'approuve pas! Ce gars-là est dans le 5e rang, il est tellement mieux.
Ouais! Puis là, la fille, là, j'oublie toujours dans quoi qu'elle jouait cette fille-là. Puis j'avais l'impression que c'était Aurélie Laflamme, mais c'est pas Aurélie Laflamme. Mais donc, la mariée, quand sa mère lui dit ça, elle est comme, mon Dieu, maman, t'as scrappé ma noce. Puis là, t'es comme, mais non, mais tu sais pourquoi j'ai scrappé ta noce. C'est parce que, je pense qu'il s'appelait genre Marc-André ou je sais pas quoi. Marc-André, c'est avec lui que tu devrais te marier, pas avec Louis-Paul Chose, l'autre. Mais il s'appelait pas le même non plus. Mais c'est pas avec l'autre que tu faut que tu te maries, c'est avec Marc-André. Puis là, éventuellement, ben, elle va. Marcher dans la. Parce que je veux dire, elle se remet de sa crise d'asthme. Là, oui. Fait qu'elle a son congé des soins intensifs. Mais l'autre, il a quand même fait comme. Une crise de cœur.
Oui.
À genre 30 ans.
Ça va pas bien,
fait que ça va pas super bien, puis il est encore des soins intensifs. Fait que là, quand elle a son congé, elle vient le voir dans sa chambre. Puis elle est comme, je suis vraiment désolée pour ce qui est arrivé. Puis là, je sais que c'est ma mère qui a fait un. Puis là, elle finit par y dire, je sais plus si je devrais me marier avec l'autre. Peut-être que c'était... Non, c'est vrai, c'est là qu'elle apprend ça, que sa mère a mis le poivre de Cayenne. C'est lui qui y apprend. Elle est comme, peut-être que c'était une intervention divine. Puis là, il est comme, yo, non, c'était pas une intervention divine, c'est ta mère qui a mis ça. Puis là, elle est comme, ma mère a essayé de me tuer. Puis là, elle est super fâchée. Fait que c'est ça, elle finit par lui dire que peut-être que dans le fond, elle est amoureuse de lui et non pas de son fiancé.
Oh.
Puis là, les deux partent de l'émission parce qu'ils ont leur congé de l'hôpital. Puis on leur souhaite de se marier sans poivre de Cayenne et d'avoir plein de beaux enfants.
Oh.
Fait que c'était une histoire de triangle amoureux, de poivre de Cayenne puis de taco de subo.
The fuck?
Tu n'as pas aimé ça, ce son-là? C'est comme la chose qui m'a le plus touchée là, cette saison-ci. J'étais comme, oh, c'est vraiment romantique! Son cœur était film. Littéralement brisé!
Comme dans le film avec Dustin Hoffman, ils finissent dans l'autobus... Avec la fille dans sa grosse robe de mariée, puis là, ils sont comme... OK, c'est quoi la prochaine étape, non?
Ils sont pas dans un autobus. C'est pas dans The Graduate, ça!
Ouais?
Où est-ce qu'il est en... Où est-ce qu'il couche avec la mère de sa fiancée?
Ouais, mais après, ils sont avec une mariée, puis là, ils sont dans le fond d'un autobus, puis ils sont comme... Oh, wait, t'es donc bien weird, ça, comme move.
Ah, ok, excusez.
Puis le film, il finit comme ça.
Je me rappelais pas qu'il était... Dans ma tête, il était dans une limousine. Ok, t'as pas...
Ils sauvent, puis ils vont dans un autobus.
Ah, ok, pardon, excusez. Ben, c'est pareil.
Ben, écoute, si j'ai pas raison, je vais me le faire dire en esti.
Voilà, puis je vais chanter. Mrs. Robinson, pour finir. Fait que c'est ça qui se passait dans le stat. C'est incroyable, c'est le meilleur.
C'est fou.
Le meilleur plotline. C'est comme le plotline le moins dark qu'il y a eu depuis super longtemps. Je pense que c'est pour ça que je me suis tellement attachée à ça.
Le lightest plotline.
Je veux vraiment savoir qu'est-ce qui se passe avec cette histoire-là dans laquelle personne n'est mort. Tu sais,
yeah!
Yeah!
Tout le monde va bien.
Tout le monde va super bien. Ah. Et on leur souhaite d'avoir plein de
bons enfants. Il a réparé son cœur avec des band-aids.
Et du scotch tape.
Ça, c'est une maudite bonne chanson de Carquois.
La crazy glue. Pourquoi t'aurais pas parlé des chansons de Carquois? Ils ont fait aucune chanson sur le monde qui font des tacos tubo au Carquois.
Ben, il devrait.
Ben, il devrait, maudit, c'est un bon sujet.
Louis-Jean, esti, qu'est-ce que tu fais, tabarnak?
C'est ça, lâche les tounes sur la dépendance, puis il fait des tounes sur le taco tubo.
Lâche ta moustache, esti.
Hey, je l'aime, sa moustache, moi.
Correct.
Yes.
Hey.
Okay, on se voit la prochaine fois.
Yes.
Stat.
Stat.